France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Cédric Thiberguien, je suis né à Colombes, juste à côté de Paris, le 5 mai 1975, et je suis pianiste.
Cédric Thiberguien, 98, le concours Lontibeau, les premiers engagements, les tournées, la découverte du monde, tout s'ouvre pour vous. Il y a une autre date importante qui est 2005, là on arrive à Londres, à la BBC, New Generation Artist, vous êtes choisi et Londres devient une deuxième maison, un deuxième pays de cœur. Qu'est-ce qui naît à ce moment-là? Moi j'ai le sentiment que peut-être le rapport aux autres artistes, à la musique de chambre, à cette musique plus partagée, il arrive à ce moment.
Oui, il y a évidemment ça. Il y a aussi le lien, d'une certaine façon, à un public. Alors, je ne vais pas dire que les publics sont forcément radicalement différents, mais on sait, une fois qu'on a commencé à voyager un peu, qu'un public à Mexico, à Tokyo, à Paris ou à Madrid ou à Berlin sont des publics qui n'ont rien à voir. Et j'ai eu le sentiment de rencontrer mon public à Londres. Alors évidemment, c'est le hasard des rencontres. On me dit, mais oui, mais finalement, comment ça s'est fait? C'est vraiment le hasard. J'avais enregistré des variations de Beethoven chez Harmonia Mundi. C'était mon premier disque chez eux.
Heroica?
Oui, variation Heroica en particulier. Et ce disque avait atterri au milieu d'une cinquantaine de disques sur le bureau donc du nouveau directeur de Wigmore Hall à Londres, qui est évidemment une salle mythique. Mais alors la raison pour laquelle il a pris mon disque, pourquoi est-ce qu'il a eu envie, je ne saurais jamais. Est-ce que c'est la couverture du disque sur laquelle il a flashé? Est-ce qu'il avait envie d'écouter du Beethoven? On ne sait pas. Mais trouverait-il qu'il a écouté ce disque et qu'il m'a directement dit, tiens, est-ce que tu voudrais jouer à Wigmore Hall? J'ai dit, oui, évidemment. Il m'avait même demandé de jouer d'ailleurs un cycle de mélodies de Messiaen. Il m'a dit, est-ce que tu joues Araoui? J'ai dit, non, mais pas de problème. Je vais jouer Araoui. D'accord, c'est formidable, merci. Je suis allé acheter la partition, c'était 150 pages, injouable. Là, je me rappelle vraiment très, très précisément de ma tête à la flûte de Pan. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et oui, c'était le début d'une aventure incroyable et vraiment où chaque nouvel événement, c'est vraiment l'effet boule de neige. Ce concert à Wigmore, il y avait le directeur donc de cette équipe à la BBC qui m'a dit « on aimerait t'avoir ». Puis quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'étais entendu par un agent que je ne connaissais pas du tout, qui m'a dit « voilà, on aimerait travailler avec toi ». Je dis « non, mais c'est bon, j'ai déjà un agent à Paris, tout va bien ». Puis je suis quand même allé voir le site internet. La mâchoire s'est un peu décrochée quand j'ai vu un petit peu l'importance de l'agence et qui a pris les choses en main d'une façon très très forte et très internationale. Et puis bon, voilà, cette aventure à la BBC, on vous dit voilà, vous avez 2 ans et vous avez carte blanche. Et ça, c'est vraiment un cadeau absolument inouï. Donc là, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux jouer? Qu'est-ce que tu voudrais enregistrer? Avec quel orchestre tu voudrais travailler? Et on me pose vraiment la question comme ça, je dis voilà, moi j'aimerais jouer, je sais pas, pour les 5 concertos de Beethoven, concerto de Brahms, 3 de Prokofiev, Shostakovich, des concertos de Mozart, et concerto de Ravel, ok, pas de problème. Et puis le jour d'après, on avait une liste d'engagement avec tout ça, et ça tombait du ciel, c'était juste inouï.
Thank you.
moi, j'avais déjà fait pas mal de musique de chambre, notamment avec Valérie Aymard, avec qui on avait exploré le répertoire pour violoncelle et piano. Et tout d'un coup, on me disait, voilà, il y a des musiciens que tu ne connais pas encore, mais avec qui tu vas jouer, qui sont des musiciens de très grande qualité.
C'est comme une troupe, en fait.
Et voilà, exactement. Mmh. Et pendant 2 ans, on va travailler de façon très, très rapprochée. Et puis, j'ai découvert, effectivement, la richesse peut-être de la musique de chambre vraiment à ce moment-là. Et puis j'ai découvert les micros aussi, puisque tout était enregistré, souvent en direct. On devait faire un programme de disque en 3 heures. Enfin, c'était des conditions qui étaient très très difficiles sur le plan technique, mais qui étaient extra... Enfin, c'est un bouillonnement fabuleux. Et puis, ce sentiment qu'on pensait avoir appris beaucoup et qu'on... Finalement, on remet tout à zéro et on repart. Là, de la même façon que mon professeur m'avait dit, la règle du jeu, c'était que comme tout était enregistré et tout était diffusé, on pouvait pas revenir la semaine d'après et rejouer la même chose. Donc, en 2 ans, j'ai écumé quasiment l'intégralité de mon répertoire. Je crois que j'ai fait plus d'une quarantaine d'enregistrements pour eux, à chaque fois avec un répertoire différent, que ce soit concerto, récital, musique de chambre. J'ai dû enregistrer 15 de concertos pour eux. Enfin, et puis c'était les proms, c'était le Festival d'Édimbourg. Je crois que j'ai jamais autant travaillé en heures de toute ma vie que pendant cette période. Et donc forcément, ça crée une sorte de réaction chimique, de développement fulgurant. Pour moi, c'est vraiment une révélation. Ça m'a permis de me développer, effectivement, un peu loin de mon pays, et puis avec ce sentiment, on dit oui, mais tu sais, nul n'est prophète en son pays, avec à l'époque un petit regret quand même de me sentir effectivement un peu éloigné. Alors il y avait bien sûr des choses. J'ai travaillé avec énormément d'organisateurs qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années, et avec qui finalement il y avait malgré tout un contact, mais j'ai jamais réussi à me sentir finalement à la maison en jouant en France, ce qui me peinait un peu. Vraiment, même si finalement je dis ma patrie musicale, c'est vraiment la Grande-Bretagne, il y a toujours une petite nostalgie de me dire, oh, quand même, je suis français. Et puis bon, ça veut dire aussi que dès que je joue, je dois partir de la maison, quitter mon foyer, quitter ma famille. Ça, c'est un rythme de vie qui est autre que de se dire, bah, tiens, je vais jouer à Reims et je rentre à Paris juste après le concert, chose qui n'arrive jamais. Bon, là, les choses, évidemment, se sont rattrapées un petit peu, et maintenant, ma présence sur le territoire français est vraiment très, très belle, mais elle est complémentaire du reste, c'est-à-dire que j'ai une carrière qui est beaucoup plus internationale que nationale, et la France s'inclut dans cette carrière comme d'autres pays, et c'est vrai que, bon, je pense qu'avec les années, si ça continue à se développer, à la fin, je me dirais, ah, c'est bien, je suis de nouveau à la maison.
France Musique, les grands entretiens de Cédric Tiberghien.
Ces années à BBC, Est-ce que ce sont elles aussi qui vont vraiment ferrer cette idée de construire des programmes? Parce que c'est quelque chose, je trouve, qui vous est très propre, Cédric Tiberghien, qui est de dire je vais jouer Brahms et Bartok, je vais jouer Bach et Chopin. On sent que vos programmes sont vraiment faits. Là, dans peu de temps, vous allez jouer un programme incroyable avec du Morton Feldman, du Crumb, du Beethoven, du Cage. Voilà. On sent qu'il y a un alliage très raffiné.
Oui, il y a eu, en fait, depuis Gérard Frémy, qui m'a très tôt dit, alors là, ne joue jamais ces compositeurs ensemble, c'est n'importe quoi, c'est comme, et il avait, je pense, d'ailleurs, fait à l'époque un parallèle gastronomique en disant, c'est comme mettre, je sais pas moi, un couscous aussi excellent soit-il, juste après un foie gras aussi excellent soit-il. Les deux peuvent fonctionner très très bien, mais si on les met ensemble, eh ben, ils vont s'annuler, ou on les met dans ce sens-là, ça va pas marcher. Il y avait cette idée de contraste aussi dans les répertoires que lui me proposait, parce que lui m'a fait travailler effectivement les partitas de Bach, et lui qui avait été au contact de la musique contemporaine m'a fait travailler aussi un petit peu, malheureusement pas assez, un petit peu de répertoire, alors, avant-gardiste, par rapport à son époque.
Il était très proche de Cage.
Voilà, exactement. Et alors, bon, malheureusement, Cage, j'en ai pas eu l'occasion d'échanger dessus, alors que ça, c'est devenu un compositeur très important pour moi. Mais voilà, il y avait ce rapport, Gérard Frémy, qui était capable de jouer Xenakis, Stockhausen, Boulez, et en même temps, qui bouleversait. Alors vraiment, moi, je me rappelle de récitals qui m'ont vraiment bouleversé. On l'entendait jouer Schubert, ou Beethoven, ou Schumann, et vraiment, oui, je me rappelle de moments différents, en fait, d'atteindre justement le moment où on n'assiste plus à un concert, on assiste à une sorte de communion avec quelqu'un dans une salle de concert. Alors évidemment, j'étais son élève, mais quand même, malgré tout, c'est des choses qui m'ont marqué. Donc, pour moi, construire un programme, c'était très important. Et puis, finalement, selon les œuvres avec lesquelles on commence et celles qu'on met juste après, ça va apporter un éclairage même sur l'œuvre elle-même. Et donc ça, petit à petit, ça s'est développé. Et puis quand on a commencé à me dire « qu'est-ce que vous voulez jouer ?» Alors ça, c'est un luxe extraordinaire de pas nous dire « oui, on aimerait bien que vous jouiez telle ou telle chose ». Mais j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et maintenant, c'est devenu, je vais pas dire ma signature, mais c'est devenu quelque chose de central dans mon travail et qui me prend un temps et une énergie considérable, parfois presque plus que la préparation du concert lui-même. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en perspective? Quels sont les ponts que je vais pouvoir construire? Et puis, comment vais-je pouvoir stimuler mon public? Moi, je me suis rendu compte qu'en étant en dehors de mes zones de confort, c'est là où je découvrais le plus de choses. Et je pense que c'est valable aussi pour le public. Alors, j'ai juste envie, quand je joue, de dire, vous êtes là, mon public, je vais jouer pour vous. Il n'y a aucune crainte à avoir. Je ne vais jamais faire un programme contre vous. Donc, faites-moi confiance. Et de montrer justement quel plaisir on peut avoir de partager avec eux, au-delà de simplement la beauté des œuvres, de partager aussi le plaisir de dire, voyez, le travail de Feldman, la variation sur, je sais pas, sur le silence, variation sur le rien, variation sur l'espace, comme finalement c'est une prolongation du travail de Beethoven sur les variations.
Dans cette New Generation Artist, vous avez fait une rencontre qui est très importante, qui est celle d'Alina Ibrahimova, violoniste, avec laquelle vous avez joué en concert un nombre, voilà, incalculable de fois, mais gravé aussi, fait ses voyages de disques avec elle, Mozart, Chimanovski, Beethoven, Brahms. Il y a des élections comme ça?
Oui, c'est des rencontres d'une vie, enfin. Je veux dire, je connais beaucoup d'autres musiciens, même des partenaires avec qui je partage déjà, même de façon très régulière. Mais une rencontre comme celle avec Alina Ibrahimova, je pense que ça, il n'y en aura pas d'autres. En plus, sans explication, on devait jouer un trio de Ravel. Et pendant le concert, il y a eu... Moi, je m'étais dit, oh là là, trio de Ravel. Alors, c'est des clichés, attention, désolé. Mais trio de Ravel avec une violoniste russe. Ouf, bon, ça veut rien dire. Et la preuve a été spectaculaire juste après, puisque j'ai rencontré quelqu'un avec qui tout marchait tout de suite. Dans notre façon de travailler, on n'a jamais vraiment questionné en profondeur la raison de je sais même pas comment dire, c'est même plus que de la fusion, de cette presque disparition l'un de l'autre dans l'addition. Ça a été comme ça dès le début, et c'est vrai que pour moi ça a été une source de bonheur musical comme aucune autre.
Vous avez, Cédric Thiberger, on le sent, hein, une sensibilité à la peinture, à la littérature, à la musique, c'est une évidence. La mélodie, c'est un art particulier pour le pianiste. On n'accompagne pas un chanteur comme on accompagne un instrumentiste.
Non, mais finalement, pour moi, c'est pareil. Alors, il faut rencontrer les bons partenaires, c'est-à-dire qu'il faut trouver un chanteur pour qui, finalement, il n'y a pas le piano derrière, mais que c'est vraiment de la musique de chambre, au même titre qu'un violoniste ou que jouer avec un orchestre, c'est juste faire de la musique ensemble. Finalement, la hiérarchie, le chanteur a besoin du piano, le piano a besoin du chant. Et la voix, moi, m'a toujours bouleversé. Mon grand-père maternel était amoureux de la voix de Gundula Janowitz. Alors là, c'était l'interrupteur à alarme, mais instantané, il entendait 5 secondes et c'était terminé. Et donc il m'avait fait écouter un disque, je savais pas ce que c'était, je l'entendais à la maison, j'avais peut-être pas encore la curiosité de demander ce que c'était, mais je l'avais entendu un certain nombre de fois. Et puis, je l'ai eu en mémoire pendant quelques années, et puis j'avais entendu une fois dans une salle du conservatoire un chanteur, une chanteuse en l'occurrence, travailler ça. Ça a été vraiment la Madeleine de Proust. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? J'étais persuadé que c'était un lied de Mahler, alors j'ai écouté vraiment un coffret avec plein de disques où il y avait tous les lieds de Mahler, ce qui est une très bonne éducation. Et toujours pas la mélodie. Et puis je suis tombé un jour par hasard sur un disque chez mes parents, qui était le disque de mon grand-père, avec les 4 derniers lieds de Strauss, Karajan, Gundula Janowitz, un disque au firmament du firmament. Et c'était le... Pareil, alors là on parle de Madeleine de Proust, pareil, ça, tout d'un coup, d'écouter cette musique-là, c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai l'impression que tout d'un coup ça ressuscite une personne. Et donc ce lien à la voix, ce lien direct à l'émotion pure qui passe presque pas par le cœur, c'est ça qui est curieux, ça passe pas par le cerveau, ça passe pas par le cœur, c'est vraiment direct de l'émotion qui est là, ça m'a toujours bouleversé. Moi j'ai toujours très mal chanté. Alors, c'est peut-être faux, peut-être que je pourrais apprendre à chanter, mais j'ai toujours très très mal chanté. Mais alors, c'est vraiment, pour moi, jouer avec un chanteur, c'est un privilège. Parmi les moments les plus forts de ma vie, ça a été avec la voix humaine. Mettre en valeur une voix, il n'y a pas deux choses comme ça. Donc, c'est une activité qui m'accompagnera jusqu'à la fin, ça c'est sûr et certain.
Passa il n'a fatte de nuages flottonneux qu'il voit naître, bouger et se perdre dans les eaux. C'est l'un d'eux qu'il désire. Il vise du bec, il plonge tout à coup. Son col vêtu de neige, puis tel un bras de femme sort d'une manche, il le retire. Il n'a rien, il regarde, les nuages effarouchés ont disparu.
Et quand vous vous projetez loin, est-ce que l'idée un jour de ne plus pouvoir jouer, c'est une inquiétude ou pas ?
Ne plus donner de concert, alors vraiment pas du tout. Parce que je crois qu'il faut savoir aussi connaître ses propres limites. Il faut savoir profiter des choses qu'on a. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'en profiter beaucoup. Et quand il y aura le concert d'adieu, eh ben, j'en profiterai à fond. J'espère que ce sera un moment où je serai encore capable de jouer, ça je ferai en sorte que ce soit le cas. Jouer du piano, j'arrêterai pas, ça c'est sûr. Donc il y aura un moment clairement où j'aurai plus forcément envie de passer du temps sur les routes, d'être loin de chez moi.
Pour se quitter, Cédric Thiberguin, je me disais que peut-être vous pourriez choisir un opéra, parce qu'on n'a pas parlé de l'opéra, mais quand on aime la voix, j'imagine que c'est quelque chose de très inspirant aussi. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Une œuvre, une interprétation, quelque chose comme ça qui...
J'ai le droit à deux réponses.
Bien sûr.
Il y aurait Péléas et Tristan. Alors je dis Péléas et Tristan, d'ailleurs il y a quand même Isolde et Mélisande, bien sûr. Mais ce sont des opéras qui m'ont vraiment tellement emmené loin, plus que d'autres opéras, au-delà du côté dramatique, du côté opératique, du côté du discours, au-delà de la musique, ce sont des opéras qui me font décoller. Et c'est vraiment on dit souvent l'œuvre de l'île déserte, je dis souvent Tristan, mais c'est vrai que Péléas en fait partie aussi, qui justement, c'est le discours, c'est l'horizon infini, c'est l'émotion à l'état pur, enfin, même pas la deuxième note, la première note de Tristan, ou le premier accord de Péléas, on a voyagé, on est dans un autre temps, dans un autre monde, et ce sont des temps et des mondes qui sont magnifiques.
Quelques accords de Tristan et Isolde de Wagner et nous sommes sur l'île déserte de Cédric Thiberguin. C'est ainsi que se termine cette série des grands entretiens avec le pianiste français. Réalisation Christine Amado, prise de son Yves Lehors, mixage Éric Boisset, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.